Covid, sécheresse, conflit en Ukraine, les marchés internationaux des oléagineux ont quelque peu été bousculés lors de cette campagne 2022. Le point avec Marine Raffray du service études et prospectives de Chambre d'agriculture France.
Pour commencer, on peut rappeler que c'est important de regarder les marchés des oléoprotéagineux, les marchés des huiles végétales, parce que bon, il est vrai que ces derniers mois, on s'est beaucoup concentré sur les grains, les céréales, le blé, le maïs, parce que ce sont des productions qui sont importantes pour l'équilibre alimentaire mondial. Mais juste derrière les céréales, ce sont les huiles végétales qui viennent dans les apports nutritionnels des populations à travers le monde. C'est environ 10% des kilocalories ingérées par jour qui viennent des huiles végétales. Donc elles ont, elles aussi, un rôle important à jouer lorsqu'on parle de sécurité alimentaire. D'où l'importance de regarder comment évoluent les prix et les volumes au niveau mondial.
Marine, quels sont les pays jouant un rôle majeur dans ce type de production ?
Sur le colza, c'est le Canada, la Chine, l'Inde, la France et l'Ukraine. Sur le tournesol, en premier lieu la Russie, l'Ukraine, l'Argentine et la France arrivent autour de la 10e place à peu près. En matière de production, si on regarde les exportations, les rangs sont encore un peu différents. On pourrait aussi ajouter le soja, bien sûr, qui est aussi un oléagineux et l'huile de soja est importante dans les équilibres mondiaux. Et là, la Chine arrive loin devant.
Quelle a été l'évolution des prix sur les marchés mondiaux et quelles en ont été les causes ?
Les prix des huiles végétales ont explosé au printemps. Après le 24 février, ça a très vite monté. On a vu le prix de l'huile de tournesol prendre 40% sur les cotations mondiales après le 24 février, par exemple. Et en fait, il y a plusieurs éléments pour expliquer ça. Il n'y a pas que la guerre, même si elle a joué un rôle énorme. On peut aussi rappeler qu'on avait eu quelques facteurs déstabilisants à travers le monde. Alors, par exemple, des sécheresses en Amérique latine, où la culture du soja est prépondérante, donc des volumes de soja qui étaient en baisse, premier élément déstabilisateur. Ensuite, la décision de l'Indonésie au printemps, pour un mois à peu près, d'interdire les exportations d'huile de palme. Et l'Indonésie, c'est le premier exportateur d'huile de palme, l'huile de palme étant l'une des premières huiles consommés dans le monde, parce que voyant les prix augmenter, ils avaient fait ce choix de privilégier leur marché intérieur et donc de suspendre les exportations, alors qu'ils pèsent pour un quart des exportations mondiales d'huile végétale, tout secteur confondu. Donc on imagine que cela a pu faire emballer les cours. On avait aussi, toujours sur l'huile de palme, des soucis en Malaisie, de main-d'œuvre, notamment liée à la crise sanitaire, qui a fait que la récolte s'est plutôt mal passée aussi en Malaisie. À cela est venue s'ajouter la guerre en Ukraine. Donc, comme je l'ai rappelé, l'Ukraine, mais aussi la Russie, ce sont deux pays qui pèsent sur les huiles végétales, que ce soit le colza ou le tournesol. Et évidemment, comme pour les céréales, on s'est demandé si l'Ukraine allait pouvoir être présente dans la récolte de tournesol à venir, étant donné donc le conflit en cours.
Un événement inattendu est-il survenu en impactant les cours ?
Ce qui a été assez inattendu, c'est que les cours ont commencé à se replier dans le courant de l'été. Donc après ce pic autour d'avril à juin, en fait, on a observé un repli, par exemple sur le soja, moins 8% sur les cotations, sur le colza également. Alors, il y a plusieurs explications, encore une fois, c'est jamais un facteur qui peut expliquer ces évolutions des cours, mais plusieurs éléments qui viennent se confronter. Alors, d'une part, le fait que la récolte sur ces ces oléagineux au niveau mondial a été meilleur que prévu, hein, malgré des difficultés liées au climat. Par exemple, en Europe, hein, la sécheresse a eu des effets, mais moins que prévu. Donc on se retrouve au niveau mondial avec de bons volumes. Ça, c'est un premier élément. Et on arrive aussi à avoir des stocks qui sont importants au niveau mondial, que ce soit pour le soja ou le colza. C'est moins vrai pour le tournesol. Alors, dès qu'on parle de stocks mondiaux, bien sûr, il faut regarder le fait que la Chine est le pays qui détient la plupart de ces stocks. Alors, c'est vrai pour les céréales, hein, en blé ou en maïs. C'est aussi vrai pour les oléagineux. Et par exemple, pour le soja, d'après les estimations de l'USDA, qui est le département pour l'agriculture du gouvernement américain, d'après leurs estimations, la Chine pourrait détenir un tiers des stocks mondiaux de graines de soja. Donc c'est colossal. Et donc on a beau avoir des stocks importants au niveau mondial, si le tiers de ces stocks est détenu en Chine, ce sont des stocks qui ne sont pas libérables en cas de difficultés, de disponibilité. Également, ce qui vient peser dans l'évolution des cours des matières premières agricoles et notamment des huiles végétales, ce sont les craintes de récession de l'économie mondiale, hein, qui pourraient venir en fait ralentir la demande en denrées alimentaires, même si l'alimentation est, et c'est un peu une platitude de le dire, mais c'est un bien essentiel. On observe des ralentissements de la consommation alimentaire, par exemple en France, des ralentissements de volume acheté. Et si on rentre en récession, donc si la croissance du PIB ralentit de plus de 0,5 points, eh bien, ça pourrait se ressentir sur la demande en matières premières agricoles. Donc, les prix viendraient diminuer. On a aussi cet accord qui a été conclu entre l'Ukraine, la Russie, sous l'égide de la Turquie et des Nations Unies, le 22 juillet dernier, qui a permis l'ouverture d'un couloir à l'exportation à partir des ports ukrainiens pour faire sortir les grains qui restaient dans les silos des ports ukrainiens. Donc ça a permis de diminuer un peu la tension qui était présente sur les cours, en permettant à l'Ukraine d'exporter, même si on n'arrive pas encore au niveau d'avant-guerre.
Des facteurs autres qu'alimentaires jouent-ils un rôle sur le prix des marchés ?
Quand on parle des oléagineux, eh bien, on doit rappeler que certains d'entre eux, comme le colza, rentrent dans la composition d'agrocarburants. Ce qui fait que l'évolution des prix des matières premières énergétiques, a fortiori du pétrole, a une influence sur les prix des matières premières oléagineuses. Donc, depuis le mois de juin, on a le baril de pétrole qui a diminué. On était à 125 $ le baril en juin 2022. On est aujourd'hui plus qu'à 94 $. Entre guillemets, hein, puisque ça reste un niveau élevé, un niveau de prix élevé historiquement, mais bien moindre que les mois précédents. Donc cela a aussi une influence sur l'évolution baissière des prix des cultures oléagineuses.
Étant donné le contexte mondial, peut-on dégager quelques perspectives pour la campagne 2023 ?
Bien sûr, les interrogations se portent désormais sur la campagne 2023. Celle de 2022 a été assurée. En 2023, avec la possible poursuite ou remontée des prix des matières premières énergétiques, des prix des engrais également, et la poursuite du conflit en Ukraine, eh bien, ce pays pourrait être moins présent sur les marchés internationaux, et on pourrait voir aussi des difficultés pour l'implantation, pour les semis, pour la prochaine campagne, de la part des agriculteurs de par le monde. Donc la question des disponibilités pour 2023